Dans quel contexte économique Emmanuel Macron va-t-il entamer son deuxième mandat? Peut-être moins brillant que ce qui se dessinait avant la guerre en Ukraine. Croissance nettement ralentie, prix en hausse, dettes plus problématiques que naguère, puisque les taux d'intérêt risquent de remonter pour juguler l'inflation. La question du pouvoir d'achat a marqué la campagne. Comment y répondre dans ces conditions? Mesures ponctuelles ou plus durables? Augmenter les salaires, par exemple? Le président réélu estime que la meilleure réponse, c'est l'emploi. Il fait du plein emploi. Un objectif de son second quinquennat. Est-ce possible avec une croissance qui ralentit, en tout cas pour l'instant? Quelles mesures économiques après la réélection? J'attends vos questions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Notre invité jusqu'à 13h45 est membre du Cercle des économistes, directeur de recherche au CNRS. Elle vient de diriger un ouvrage collectif aux éditions Odile Jacob, Les économistes répondent aux populistes. Bonjour Hippolyte Dalbis.
Bonjour Bruno Duvic.
Et merci de venir dans les studios de France Inter. Est-ce qu'après les 140 milliards d'euros du quoi qu'il en coûte, les 20 du bouclier tarifaire, les 100 du plan d'investissement, il sera difficile d'ouvrir à nouveau le carnet de chèques dans les mois à venir?
Pour l'instant, c'est encore possible.
Bon. Voilà,
c'est vrai, c'est étonnant. J'aurais jamais cru, même en tant qu'économiste, qu'on puisse dépenser autant d'argent. La période qu'on vient de passer, c'est-à-dire les 2 ans comme ça du quoi qu'il en coûte, sont incroyables. On est arrivé à des niveaux de dette à plus de 110% du PIB. Oui. C'est étonnant. Alors c'est vrai qu'il y avait un contexte qui était extrêmement favorable, c'est-à-dire un contexte de taux d'intérêt très faible, ce qui fait que finalement s'endetter ne coûtait pas, mais ne coûtait pas à court terme. Et puis il y avait évidemment cette pandémie avec un contexte institutionnel aussi qui a été très particulier et un consensus autour de l'idée qu'on pouvait dépasser les plafonds qu'on s'était imposés jusqu'à présent.
Et est-ce que désormais cela devient un problème avec une dette, vous le disiez, à 113% et possiblement des taux d'intérêt qui vont remonter?
Alors à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter, s'endetter va coûter de plus en plus cher. Mais je dirais que le fait d'avoir des taux d'intérêt faibles peut être même un petit peu pervers, parce que justement, ça vous coûte rien, mais ça vous coûte rien à court terme.
Oui.
C'est-à-dire que vous endettez, ça vous coûte rien sur pendant que la maturité court, et lorsqu'on arrive au terme en fait, de la dette, et ben, il faut bien rembourser. Vous voyez, la direction du Trésor, ou l'agence France Trésor plutôt, qui s'occupe de gérer la dette de l'État, émet des obligations généralement à 10 ans.
Oui.
Donc au terme des 10 ans, il faut rembourser. Donc oui. Vous voyez, l'année 2020, la dette publique française a augmenté de 20%. C'est colossal. Donc majoritairement, on peut dire, c'est pas exactement ça, mais majoritairement, on s'est endetté à 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 2030, il faut rembourser. Et ça, c'est un vrai souci. Alors là où c'est pervers, c'est que le gouvernement, lui, il a un horizon de 5 ans.
Oui.
Et donc il n'est pas très gêné de ce point de vue.
Mais
la situation l'économie dans une situation qui est potentiellement compliquée.
Mais dans vos propos, alors, potentiellement compliquée, dans vos propos et même dans votre ton, on entend certains économistes, voire politiques, je pense à un Édouard Philippe par exemple, qui disent alerte dette, j'entends pas cette urgence-là dans vos propos, Hippolyte Dalbis.
Alors, en effet, c'est pas l'urgence du moment, mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de modifier la trajectoire de dette. C'est vraiment très important.
Oui.
Et alors, ça va venir d'une façon conjoncturelle, parce qu'elle va nous coûter plus cher. Les taux d'intérêt vont remonter du fait des pressions inflationnistes, mais il faut aussi renouveler la réflexion sur quel est le bon niveau de dette que l'on veut pour un pays. D'accord? Donc, si on n'est plus dans les critères de Maastricht, on s'était engagé avant à respecter en fait un niveau de dette, ben il faut dépasser ça et se dire mais qu'est-ce qu'on veut comme dette? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'à la fin on rembourse la dette. Alors le consensus aujourd'hui là-dessus, il est que y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Hein. Vous voyez, une bonne dette c'est quelque chose qui sert l'avenir, typiquement investir dans l'éducation, investir dans la transition écologique, etc., etc. Mais c'est pas faire des dépenses courantes. Voilà. Et donc il y a un petit peu ce consensus qui se forme auprès de tous. Hein. Vous citez des politiques, etc., des économistes, mais je pense que globalement les gens sont d'accord pour dire que lorsqu'il y a une dépense d'avenir, eh ben il faut on peut faire de la dette parce que ça va engendrer potentiellement de la croissance et donc des capacités de rembourser cette dette.
Question de Denis pour vous au standard Hippolyte Dalbis. Bonjour Denis.
Bonjour.
Vous nous appelez de Grandvilliers, vous voulez parler salaire.
Oui, une question tout simple. Est-il possible d'augmenter le SMIG dans l'économie française sans que celle-ci soit des failles, parce qu'il me semble que augmenter le SMIC, c'est une juste répartie par rapport à l'augmentation de l'inflation constante. Oui. Et cette augmentation permettrait de toute manière d'être réinvesti dans le cercle vertueux de l'économie, puisque les gens qui sont dans une précarité salariale permettrait à ces Français de dépenser cet argent dans l'économie et non d'épargner. Ça paraît une évidence.
Alors Hippolyte Dalbis, peut-on augmenter le SMIC? Il y aura des augmentations automatiques liées à l'inflation. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que ça mettrait l'économie en difficulté? Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le formuler de ma part.
Non, c'est une très bonne façon, et votre auditeur et vous, de le formuler. Alors le SMIC est réajusté. Il est réajusté avec un délai. Oui. C'est ça qui peut engendrer des petites tensions, c'est-à-dire que finalement la hausse des prix qui est prise en compte pour réaugmenter le prix est une augmentation des prix passée. Oui. Donc il y a un petit décalage. On pourrait avoir des revalorisations plus fréquentes en fait du SMIC pour pas que les gens perçoivent ce décalage. Et donc je dirais que les salaires, en tout cas au SMIC, mais on pourrait parler aussi des retraites de base, oui, elles aussi sont valoriser. Donc le système, il y a un système de stabilisateur social qui fait qu'une partie de la population est protégée contre ces augmentations de prix, comme votre auditeur l'a fait remarquer. Maintenant, il y a quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe, c'est que en fait l'augmentation des prix n'est pas uniforme sur tous les prix. Vous voyez, c'est pas tous les prix des biens que l'on consomme qui augmentent, mais ce sont certains.
Et ce que dit l'OFCE, c'est qu'au fond, l'inflation actuelle, elle touche encore plus proportionnellement les plus pauvres que les plus riches, pour le dire vite.
Voilà, elle le dit parce que typiquement les plus pauvres consomment une plus grande partie de leur salaire, et donc donc nécessairement ils se retrouvent confrontés aux menaces inflationnistes. Mais pour revenir vraiment sur la question de votre éditeur, il faut voir que l'inflation actuelle, elle est portée par les prix des produits alimentaires et surtout les prix de l'énergie. D'accord. Donc vous avez un accroissement des prix de l'énergie. Donc ceux qui, parmi ceux qui sont au SMIC, ceux qui dépensent beaucoup d'énergie vont être plus affectés. Et donc pas forcément compensés, voyez, par une augmentation du SMIC. Et donc on pourrait vouloir justement plus compenser ces personnes-là. Et là où il y a une difficulté, c'est là que je pense que le point est crucial, c'est que on veut des prix de l'énergie chers. On veut que les prix
pour la transition écologique.
Voilà. On n'a pas trouvé mieux. En tout cas, bon, il y a peut-être des solutions techniques, etc. Mais en tant qu'économiste, si on veut aller vers une sobriété, si on veut aller vers moins de consommation d'énergie, on n'aura pas trouvé mieux que l'augmentation des prix, de l'énergie. Donc, ça crée des tensions. J'en suis au courant, etc. Ouais. Mais c'est un pis-aller. Alors, l'action du gouvernement, si vous voulez, c'est de faire en sorte que cette augmentation ne soit pas trop brutal. C'est comme ça que je lis typiquement les mesures de type bouclier tarifaire. C'est-à-dire, on veut l'augmentation des prix, mais on veut qu'elle soit pas trop brutale. Après, il y a quand même aussi une partie de la population qui est en situation de précarité énergétique. Il y a un observatoire de la précarité énergétique qui alerte quand même depuis plusieurs années, avec une augmentation de la part des gens qui ont des difficultés à se chauffer, qui ont des difficultés à maintenir une température qui soit acceptable dans leur logement, du fait de la hausse des prix. Donc tout l'enjeu, si je puis dire, aujourd'hui de l'inflation, ce serait pas d'augmenter tout le monde ou de compenser tout le monde pour la hausse de l'énergie, mais bien de compenser ceux qui sont en précarité énergétique.
Et lors du débat d'entre-deux-tours, il y a eu un débat justement sur le thème mesures ponctuelles ou mesures durables. Au fond, comment on dope le mieux le pouvoir d'achat sans trop booster l'inflation? Est-ce que c'est avec justement des mesures type bouclier tarifaire, les primes Macron, le chèque alimentation, ou est-ce que c'est avec du salaire?
Alors, de façon durable, je dirais tout d'abord que ça fait 2 ans qu'on préserve le pouvoir d'achat. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on passait en confinement, d'accord? Les gens arrêtaient de travailler et l'État français s'est endetté pour distribuer des salaires à tout le monde. Donc, je veux dire, la priorité du pouvoir d'achat, c'est pas juste la campagne présidentielle. En fait, ça fait 2 ans que le gouvernement ne travaille que à la préservation du pouvoir d'achat. Maintenant, pour maintenir cette augmentation, pour maintenir face à une inflation qui pourrait augmenter le pouvoir d'achat durablement, ce qu'il faut, c'est améliorer la formation, c'est améliorer la qualité des emplois. Je veux dire, les gens se préserveront de l'inflation en ayant un travail de bonne qualité. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Et il y a un vrai enjeu sur la formation de la part du gouvernement.
Et donc l'enjeu plein emploi, puisque c'est aussi un des thèmes que j'évoquais dans ma présentation, le passage au plein emploi, le fait de passer de 7-8 à moins de 5% de chômage, ça se joue sur la formation. Le levier, il est là pour aller vers le plein emploi.
Alors, oui. Le niveau aujourd'hui d'emploi, le taux de chômage est quand même historiquement faible, hein, oui. Il faut le dire. Il y a eu certes, évidemment, en 2020, il y a eu un petit choc, mais on revient sur la tendance, une tendance qui a commencé en 2012. Hein, vous rappelez de François Hollande, oui. Hein, qui voulait inverser la courbe du chômage. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a rigolé, mais oui. Néanmoins, c'est bien ce qui s'est passé. Oui. Depuis, on a une baisse du chômage, donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a deux points. C'est que, un, on voudrait certes que tout le monde ait un emploi, mais tout le monde ait un emploi de qualité. Alors, donc, voilà. Je reviens sur le premier point. Et le deuxième élément, on a un enjeu, et ça, c'est apparu très clairement dans le cadre des débats de la présidentielle, c'est l'enjeu de l'emploi des seniors, c'est-à-dire des 55-64 ans.
Avant que vous parliez de la qualité, je voudrais qu'on entende Jean-Claude, parce qu'il est sur ce thème, justement, au standard. Bonjour, Jean-Claude.
Oui, bonjour. Je
Merci
voulais
de nous
poser appeler. Une question sur la qualité du travail pour le plein emploi. Est-ce que c'est un emploi qui va être adapté, je dirais, à des conditions de travail de plus en plus dégradées, un peu comme l'ubérisation et ce qu'on a dit, ou est-ce que c'est des qualités d'emploi aussi pour le salarié ?
Merci Jean-Claude pour cette question, Hippolyte Dalbis.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, lorsqu'on parle d'emploi de qualité, en fait, on dit des emplois qui sont justement qui donnent des bonnes conditions de travail, qui sont intéressants, qui permettent aux uns aux autres de s'émanciper avec le travail. Je suis pas naïf. Hein, il y a une grande partie des emplois qui ne sont pas de ce type. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est l'acquisition de compétences en formation initiale et en formation continue.
Mais la question aussi, c'est est-ce que derrière cette baisse du taux de chômage, ce cas au fond des emplois qui se seraient dégradés. Notre auditeur disait des emplois ubérisés. C'est un argument qu'on oppose régulièrement à Emmanuel Macron quand il met en avant ce taux de chômage qui baisse.
Oui, tout à fait. Mais c'est légitime. Je dirais que ça se polarise. En fait, la notion qui est importante, c'est que ça se polarise. Vous avez des gens qui ont des emplois dits de bonne qualité, qui sont intéressants, qui sont justement avec des hausses de salaire, qui sont bien payés, qui sont émancipateurs, et d'autres qui ont des situations qui sont de plus en plus dégradées, plus précaires, etc. Et c'est ça un petit peu la fracture de la société française. C'est une fracture que l'on retrouve aussi dans les urnes, que l'on retrouve politiquement, et qu'il est important, je veux dire, en tout cas pour le personnel politique et pour les années à venir, d'essayer de réparer.
Deux questions, je les prends dans ma voix. On a parlé de la dette au début de cet entretien. Georges nous demande à qui la France doit sa dette et où se trouve cet argent.
Une grosse partie de la dette est détenue par des investisseurs étrangers. Et vous savez ce qui s'est passé en fait pendant la période Covid, c'est que l'État français a émis de la dette. Hein, c'est-à-dire que concrètement, il va faire une enchère en fait sur les marchés financiers. Il demande à un certain nombre de banques qui sont accréditées, est-ce que vous souhaitez participer et racheter ma dette ? Et très rapidement, en fait, cette dette est échangée sur les marchés. Oui. Et en particulier, ce qui était ce qu'on a appelé les politiques non conventionnelles, c'est que la Banque Centrale Européenne a racheté ses dettes.
Question de Camille. On dit souvent, écrit-elle, d'Emmanuel Macron qu'il soutient une politique économique très libérale. D'abord, est-ce que vous diriez ça à propos de la politique économique d'Emmanuel Macron ? Diriez-vous qu'elle est très libérale ? Et je vous donne la suite de la question de Camille ensuite.
Non, spontanément, je dirais pas que c'est très libéral, quoi. Il faut s'entendre. Après, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Donc, je vois bien que lorsqu'on l'utilise aujourd'hui, en fait, on l'emploie pas dans son acceptation la plus stricte. Maintenant, on a une économie où l'État intervient énormément, intervient tout le temps. Je veux dire, c'est très difficile même d'avoir une conversation économique où lorsqu'on évoque un problème, tout de suite, on va se tourner vers l'économie. l'économiste ou avec l'expert en lui disant mais qu'est-ce que l'État doit faire. Donc ça, c'est le contraire, en fait, je dirais, d'une société ou d'une économie libérale. Quoi.
Et deuxième partie de la question de Camille, est-ce qu'on doit sortir d'un système économique qui aurait pour seule boussole la croissance?
Alors, ça c'est très souvent évoqué, hein, et c'est notamment évoqué dans le cadre de la volonté d'avoir une espèce de sobriété pour mieux préserver l'environnement. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Qu'à mettre en œuvre.
Voilà. Donc, sortir de la croissance, ça veut dire avoir moins de revenus dans votre économie à répartir. Ça veut dire moins de recettes fiscales, donc moins de possibilités pour l'État de compenser un certain nombre d'injustices, moins de possibilités aussi pour investir dans la transition énergétique. Et donc, ça laisse moins de marge de manœuvre. Maintenant, je comprends bien, en fait, cet objectif.
Merci Polyte Dalbis d'avoir répondu à nos questions. Les économistes répondent aux populistes. C'est publié chez Odile Jacob.